Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
C'est vous, c'est nous ensemble qui faisons l'émission et on peut parler des sujets qui vous intéressent et qui concernent
nos l'amour, la sexualité, le rapport au corps, tout ça. Que ce soit des questions, des coups de gueule,
des témoignages, de ce que vous voulez en fait. Hein. Il n'y a pas de tabou.
On essaye de ne pas avoir de jugement. Enfin, en tout cas, on n'a pas envie de juger quiconque. Alors pour ça, vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09 et vous serez en direct avec nous à la radio pour discuter avec nous ou nous poser vos questions.
Absolument. Nous, on se pose des questions d'ailleurs.
Oui, on disait qu'on pourrait commencer par nos petits questionnements existentiels du moment.
Voilà, du jour, de l'heure même, parce que ça évolue.
Voilà, et que peut-être ça vous donnerait envie de nous appeler, que ce soit cette semaine ou dans les semaines prochaines. Pour donner votre avis ou ce qu'il en est pour vous. Alors moi, j'adapte souvent mes questionnements à ce que je vis, forcément. Donc, voilà. Alors, il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'avais un grand questionnement sur le syndrome prémenstruel.
Le syndrome prémenstruel.
Le SPM. Alors, en gros, je vais vous donner une définition floue. C'est qu'en gros, on désigne par le syndrome prémenstruel un peu les symptômes des femmes avant leurs règles qui seraient expliqués par l'arrivée imminente des règles. Et donc, c'est un peu le fait d'être irrité, d'être un peu brassé, de pleurer facilement.
Donc quelque chose qui serait lié aux hormones, c'est ça qui bouge.
Et okay. Donc peut-être aussi d'avoir des douleurs dans les seins ou d'avoir... Et donc ça s'appelle... on peut appeler ça le syndrome prémenstruel. Mm-hmm. En France, je sais que c'est pas très courant de parler de ça. C'est même plutôt assez rare et c'est pas trop validé, j'ai l'impression. Alors que je suis tombée sur des sites québécois où le syndrome prémenstruel, on en parle comme d'une réalité scientifique. Voilà, c'est comme ça. Certaines femmes sont victimes du syndrome prémenstruel et ça explique leur état, scientifique. Enfin, je dirais
d'accord.
Et donc moi, je suis un peu perdue toujours. C'est intéressant de voir que d'un pays à l'autre, on va pas voir les choses de la même manière. Mmh. Bon, j'imagine que dans les trucs anglophones ou peut-être dans d'autres langues, il y a d'autres explications encore ou d'autres. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je sais pas. Est-ce que donc j'aimerais bien avoir des témoignages et des analyses de meufs là-dessus.
Qu'est-ce que tu entends par c'est vrai? Parce qu'à partir du moment où nous on sent qu'on est brassé, c'est que c'est vrai quoi.
Enfin, ouais. Je veux dire. Oui. Ben oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas psychologique, psychosomatique?
Tu d'accord,
sais que
c'est
tu
ça.
Vas avoir tes règles, alors tu, du coup, t'as un peu de mauvais poil. Tu sais que tu vas avoir tes règles. Mais moi, j'ai des contre-exemples. Hein. Moi, je compte un peu pour mes règles. Et puis des fois, je suis surprise. Elles arrivent plus tôt que prévu. J'avais oublié de compter. Le temps est passé à une vitesse folle dans ma vie. Hop, ça fait déjà un mois. Et en fait, j'ai mes règles et je me dis, ah, mais c'est fou, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai pleuré pour un rien.
Ouais.
Bon.
Ouais, donc, moi aussi, j'ai un truc un peu comme ça où je me sens répondre sèchement à des gens ou me mettre en colère pour des trucs. Et après, cinq minutes après, je me dis, pourquoi je suis tant en colère? Ah, j'ai peut-être mes règles qui vont arriver, ça doit être ça. Et c'est pas forcément régulier, effectivement. Donc,
à voir quelle est la validité de tout ça. Bon, j'aimerais bien avoir des avis d'autres personnes.
Donc, là-dessus. Si vous voulez nous parler de votre syndrome ou non-syndrome post...
Non, pré-menstruel. Oui, parce que alors, si ensuite, t'as le syndrome post-menstruel...
Et le pendant menstruel.
Bon, bref. C'est aussi des explications. Je me demande aussi la part de misogynie qu'il y a là-dedans, d'expliquer toujours ce qui se passe pour nous, les femmes, sur des
parce
trucs
qu'on
biologiques,
a des règles,
parce qu'on a des règles. Quoi. Bon, ouais. Ça me pose plein de questions. J'aimerais bien en discuter avec d'autres gens. Et puis, pour continuer sur mon grand sujet des règles, je me demandais... moi, j'ai ce truc bizarre de... C'est pas... J'ai pas tout le temps mal pareil. Il y a des fois où j'ai mes règles et j'ai pas mal au ventre. Puis il y a d'autres fois, j'ai hyper mal. Là, aujourd'hui, j'ai eu hyper mal au ventre pour vous raconter ma vie. Mmh. Mais c'est vraiment, ça m'a tordu de douleur, quoi. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et je me demande de comment ça se fait que des fois, ça fait plus mal que d'autres.
Ouais.
Alors bon, on va me dire c'est comme ça. Oui, mais moi, je ne me satisfais pas de c'est comme ça. J'aimerais bien avoir des explications. Donc si vous avez des hypothèses ou des certitudes à émettre à ce sujet de pourquoi il y a des cycles où ça fait mal et d'autres moins, je suis preneuse.
Moi, j'ai essayé d'émettre une hypothèse tout à l'heure avant la mission en discutant et j'ai dit une bêtise où je disais oui, moi j'essayais de voir est-ce que un mois sur deux j'ai plus mal, parce qu'effectivement des fois j'ai plus mal. Alors est-ce que par exemple quand c'est mon mois où c'est l'ovaire gauche qui a travaillé, ça me fait plus mal que l'ovaire droit et tout. Et en fait le truc des règles, c'est effectivement toute la paroi utérine de l'utérus qui est expulsée. Donc a priori ça ne joue pas sur un côté ou l'autre, quoi.
Oui, et puis moi, je pourrais te dire que je n'ai plus qu'un ovaire et des fois, j'ai mal du côté où il n'y a pas d'ovaire.
Ah là là, là, là c'est compliqué tout ça.
Bon, voilà, c'était notre chapitre, les règles.
Voilà, moi,
et
j'ai,
nous
j'ai
avons d'autres,
d'autres
questions
petites questions que pour vous pour susciter l'envie. Et puis, en fait, c'est pas tant... Enfin, si, c'est pour vous susciter l'envie d'appeler, mais c'est des vraies questions qu'on se pose. Je veux dire, là, on a besoin de votre aide, quoi. Parce que, donc, oui, calibre...
La preuve qu'on n'est pas des spécialistes. Hein.
Alors, moi, la question du jour... Enfin, du jour, non, c'était plutôt la question de l'été, d'ailleurs, où je réfléchissais à cette histoire de d'épilation dite intégrale, c'est-à-dire l'épilation du sexe. Et où dans ma tête c'était vraiment quelque chose que je rejetais totalement en me disant mais quand même pourquoi nos sexes ils devraient ressembler à des sexes de petites filles, non ça va pas du tout, c'est quoi cette mode pourrie, etc. Et
t'étais puis contre.
Ah oui, totalement, mais pour moi et pour tout le monde, hein, bon, voilà. et puis à force de discuter avec des copines qui m'ont remis un petit peu à la réalité que ben il y a des femmes aussi qui choisissent ça, qui c'est pas que le
c'est
subir
pas la pure
en fait.
Oppression, hein. Tu veux voilà. Dire, voilà.
Et pourquoi il y a ce choix ? Alors ça peut être ne serait-ce que pour le temps où on va se raser le sexe face à un miroir, et ben redécouvrir ou découvrir son propre sexe et pouvoir le trouver beau aussi, des petits outils comme ça qui nous rapprochent de nous-mêmes. Et après il y a l'aspect pratico-pratique, hein, de notamment enfin beaucoup pour les cunnilingus, que c'est quand même plus simple de ne pas se retrouver avec des poils dans la bouche. Voilà. Et du coup, j'étais un petit peu... Voilà, ça m'intéressait d'avoir des témoignages de femmes, de filles qui décident de s'épiler le sexe ou pas. Et puis pourquoi ? Qu'est-ce que ça change en termes de sensations ? Voilà.
Nous pourrions également être intéressés par des témoignages de personnes qui font des cunis. Alors les poils, pas de poils, est-ce que c'est si dérangeant que ça les poils horrible. Pour faire des cunis ou est-ce qu'on aime bien, est-ce qu'on aime pas, bref, j'imagine qu'il y a plusieurs, je le sais, il y a sûrement plusieurs sons de cloche.
Voilà, donc Laura et Mélanie nous rappellent de vous redonner le numéro de téléphone au cas où vous avez loupé le démarrage, donc pour témoigner sur ces choses ou sur ce que vous voulez, c'est donc le 04 76 09 09 09. Et puis, on avait une dernière interrogation. On s'était dit, tiens, est-ce qu'on ferait une émission là-dessus ? Puis finalement, non. Alors voilà, bon, on vous livre
ça. Peut-être que ça viendra. Peut-être que ça viendra. Moi, dans ma série de « Est-ce que tout le monde est égaux, égal dans ces histoires de sexe ?» je pensais aussi aux personnes qu'on appelle personnes âgées. Donc, aux personnes qui sont plus vieilles que les jeunes. Bon, en gros, les vieux et les vieilles, quoi, qui ont 50, 60, 70 ans, la peau qui plisse et qui pend et qui vieillit et un corps qui ne ressemble pas au corps dans les magazines. Mm-hmm. Et alors, ces personnes-là ont-elles encore le droit d'avoir envie d'avoir du sexe ? La réponse est oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est si simple que ça ? Comment vivent-elles leur sexualité ? Nous, on est assez mal placés à Calibre pour parler de ça, étant donné qu'on a toutes moins de 35 ans. Mais on a vu ce film qui s'appelle Nitrate qui cise, j'ai oublié le nom de la réalisatrice. Plus. En tout cas, dans ce film, il y a notamment deux femmes qui sont vieilles, deux lesbiennes, et qu'on voit avoir du sexe toutes les deux ensemble. Donc c'est vraiment assez fort de voir ces femmes. Bon, il y a plein d'autres images de représentation de la sexualité qui questionnent beaucoup nos représentations et tout. Mais je crois qu'une des scènes les plus marquantes, c'est justement celle-là entre ces deux femmes qui baisent.
Mmh. Hein, oui, littéralement. Qui baisent.
Elles baisent, hein, et puis elles y vont pas de main morte. Mais voilà, bah oui, elles ont la peau, elles ont des vieilles peaux, quoi. Mmh. Je sais pas comment dire, des rides, des peaux un peu plus flasques. Et c'est perturbant de voir ça. Et en même temps, c'est fascinant. Mmh. Ça nous projette, nous, dans des réalités. Voilà.
Donc, ah, c'est pas des imaginaires qu'on a, hein, en termes de sexualité.
Et moi, je me suis dit, alors, est-ce que je pouvais avoir du désir pour une vieille femme? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, si vous avez aussi envie de nous accompagner sur ces réflexions-là, que ce soit parce que vous y avez aussi réfléchi ou peut-être parce que vous êtes vous-même vieille et que vous avez envie de la ramener là-dessus et qu'on cesse de vous occulter quand on pense à une vie sexuelle active.
Tout à fait. Bon, ben voilà, ça fait déjà plein de questionnements.
Ah si oui, ça vous... entre les règles, le syndrome prémenstruel, l'épilation du sexe et la sexualité sexe, des personnes vieilles.
Voilà, ben donc c'est le 04 76 09 09 09. Et puis on va s'écouter un premier morceau.
Ben oui, et pour rebondir un peu sur nos questionnements... un morceau d'un groupe à qui on passe le bonjour d'ailleurs, c'est Perte Noire, un groupe de Bruxelles, un groupe de meufs, et leur chanson s'appelle « Sans des sangs », c'est sur les règles.
Calibre donc 3 novembre, hein, parce qu'on n'a pas encore dit la date, tout ça, mais enfin bon, peu importe. Si vous êtes en direct, on est là ensemble à cette heure-là. Et voilà, vous pouvez toujours nous appeler en fait, hein, sur les sujets qui vous intéressent. Allez, encore un coup, le numéro de téléphone au 04 76 09 09 09. Et on avait envie de vous parler d'une petite brochure que nous avons découverte récemment.
Donc voilà, Calibre, on est toujours un peu à la recherche des documents qui parlent de prévention, qui parlent de sexualité et qui s'adressent un peu à tout le monde, que ce soit donc aux hétérosexuels, aux mecs homosexuels ou aux PD, quoi, ou alors aux lesbiennes, ou à celles en tout cas qui font du sexe avec d'autres femmes. Et c'est la nouvelle brochure qui est sortie il y a très peu de temps, là, ce mois-ci, hein. Qui s'appelle « Tomber la culotte », « Coup de pouce pour s'affirmer, s'amuser et prendre soin de soi pour les lesbiennes, virgule, bi, virgule et autres curieuses, trois petits points. Mm-hmm. » Mm-hmm. Donc cette petite brochure, elle s'adresse aux femmes qui ont des rapports sexuels avec d'autres femmes, qu'elles aient eu ou aient encore des relations sexuelles avec des hommes ou non, et quelle que soit la manière dont elles se définissent. Donc ça, c'est la petite intro. Elle a été écrite par tout un tas de gens, d'après ce qu'il y a écrit derrière, et pas mal de lesbiennes, de femmes issues de plusieurs assos différentes, que ce soit le kiosque InfoSida, le Sida InfoService, le collectif lesbien lyonnais, Solidarité Sida, le centre LGBT Dijon-Bourgogne, Commission Lesbophobie de SOS Homophobie, le GLUP, l'Association des médecins gays, le MAG, enfin bref. Il y a plein d'assos différentes qui ont participé à l'écriture de cette brochure. Ce qui, je pense, est là, sûrement la clé aussi
de cette réussite. Parce qu'on l'aime bien.
Allez, on n'a qu'à dire qu'on a plutôt un avis positif sur cette brochure. Ouais. Déjà d'un premier aspect,
tout d'abord parce que c'est la première brochure avec des financements publics, donc avec une reconnaissance publique. Il y a déjà eu des brochures faites un petit peu en DIY, c'est-à-dire en do it yourself avec des groupes, des meufs qui ont réfléchi. C'est vraiment des bonnes brochures, hyper intéressantes.
Rattrape-toi.
Non, mais c'est vrai. Et là, il y a pas forcément plus d'infos, mais c'est la première fois où c'est un accès, on va dire, grand public avec un financement public, donc oui. Aussi des sous pour faire une présentation, voilà.
Oui. Après, c'est vrai que je pense que c'est faux de dire que c'est la première brochure de prévention pour les lesbiennes, parce qu'il y en a eu d'autres.
À financement public.
À financement public, oui. Bon, d'accord.
Effectivement,
oui, ça a été effectivement financé par l'INPES, l'Institut national de, je sais pas quoi. Prévention en sexualité.
Ouais, un truc comme ça.
peut-être pas. En tout cas, ouais, elle est belle. Quand ça donne envie de la feuilleter, elle est en couleur. La mise en page est assez sympa. Les photos, je trouve, sont assez belles et reflètent quand même assez bien une certaine culture lesbienne, ouais. J'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est pas que des meufs super féminines. Enfin, on n'est pas... C'est pas que The L Word, quoi. Mm. C'est quand même... Puis c'est adulte, quoi. Je veux dire, voilà. Il y a des femmes aux cheveux courts. Des femmes... Il n'y a pas que des jeunes femmes de 18 ans. Donc, fait assez plaisir. Il y a un côté politique qui est présent et militant, avec quand même des définitions. Définition du théorie du genre. Ouais. Définition du queer. Donc, quand même une dimension politique bien présente. Par exemple, cette photo, qui est très belle d'ailleurs, d'une lesbienne avec une pancarte. Je ne suis pas une femme, je suis une lesbienne.
Ouais, il y a toute une page sur aussi ce qui s'appelle l'histoire des lesbiennes, où il y a quelques dates et quelques auteurs clés. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à inclure dans une brochure de prévention ou de réduction des risques. Parce que c'est vrai que... Ce qui est intéressant dans cette brochure aussi, c'est que ça englobe tout le contexte d'aujourd'hui, comment ça peut être difficile de se sentir, avoir du désir pour des femmes, quand tu es une femme ou trans. Et puis ça n'exclut pas aussi, c'est pas binaire non plus. Il y a effectivement, ça s'adresse à des personnes trans ou entre deux genres. Enfin vraiment, on sent le côté militant en fait, hein, vraiment qui ressort et qui est chouette, quoi.
Alors voilà, donc à voir, nous forcément ça nous plaît, à voir comment elle va être reçue justement dans les milieux lesbiens Et puis justement, par juste des meufs qui vont choper ce truc-là au planning et qui peut-être peuvent avoir des désirs pour des filles, mais qui se revendiquent peut-être pas lesbiennes. Ouais. À voir comment elles la recevront, ça j'en serais curieuse.
Parce que c'est dit dans le texte qu'on n'est pas obligé de se revendiquer lesbienne. C'est pas parce qu'on fait du sexe avec des femmes qu'on a besoin de se classer en tant que lesbienne et tout. Après, bon, faut lire effectivement les pages pour se rendre compte de cette approche-là qu'il y a dans la brochure.
Oui, et puis c'est effectivement... c'est quand même très politique, donc à voir comment c'est reçu. Donc là, je tombe sur la page sur l'hétéronormativité, par exemple, donc avec une définition assez claire. Donc voilà, il y a cette dimension politique que moi, je trouve assez chouette. Bon, je me pose la question de comment ça va être lu et tout. Bon, ça, c'est l'expérience qui nous le dira. Hein. On fera suivre et tout, mais je la trouve aussi bien parce qu'elle... Bon, ouais, elle parle du consentement, il y a ces petites BD un peu rigolotes, ça parle de la santé, ça parle voilà, ça parle de plein de choses. Alors moi, il y a un truc que j'ai pas aimé. Ah oui, si je peux finir de dire, j'ai bien aimé la petite BD sur les gynécos. On en avait parlé plusieurs fois de la difficulté d'aller voir une gynéco quand on est lesbienne, parce que on va, bon, avant, enfin bon, il va falloir l'annonce, trouver un moyen de le dire entre les questions sur la contraception et justement l'hétéronormativité. Mais bref, un truc que j'aime pas trop, alors je sais pas ce que toi t'en penses, Mimi, mais moi je suis pas fan de, là, dans les dernières pages, il y a un espèce de pseudo carnet de santé, là, où on serait censé marquer les dates de ces consultations gynéco,
quand les résultats.
Les résultats des frottis, palpation des seins, alors bon, ça permet, c'est en fait... C'est un moyen, j'ai bien compris hein, que c'était un moyen de nous dire aussi tous les combien de temps c'est conseillé de faire un frottis, tous les combien de temps c'est conseillé de faire des palpations des seins, etc., les mammographies, tout ça. Mais du coup, ça permet aussi, ça nous propose de faire le point sur notre consommation de tabac, sur notre consommation d'alcool, sur notre consommation de drogue, de médicaments. Alors là aussi, on peut se dire, bah, c'est intéressant parce que ça permet de dire, bah oui, ça influe aussi sur la santé, ça fait aussi partie de notre santé. En même temps, moi, quand je lis ça, ça me fait un petit côté culpabilisant de, est-ce que je vais oser, comme chez le médecin, est-ce que je vais oser me regarder en face, dire, bah ouais, j'en fume 30 des clopes par jour, je me suis encore bourré la gueule hier soir et puis je fume 30 joints par jour ou je sais pas.
Oui, et puis c'est pas vraiment l'objectif de cette brochure-là. Disons qu'il pourrait y avoir d'autres cases encore s'il faut prendre tout l'aspect global de la santé. Quoi.
Oui, puis bon, il y a cette case poids qui pose question aussi parce que sans rien écrit à côté, bon, moi ça me ramène quand même à toujours cette injonction à, qui est très contemporaine de pour être en bonne santé, il faut pas être gros. Pas être grosse. Bon voilà, et puis la deuxième page, les dates de dépistage, les vaccinations, il faut marquer les dates de ces vaccinations pour l'hépatite, pour le papillomavirus.
Oui, qui ne sont pas du tout des vaccins obligatoires, qui sont questionnables aussi, et là c'est comme s'il fallait tout faire. Quoi.
Voilà, donc ça c'est vrai que moi ça m'a fait un effet bizarre. Donc voilà, c'est deux pages
sur
40 pages que je n'aime pas. Ouais. À part ça, la page d'à côté est super.
Voilà, moi c'est ça exemple... plutôt que j'ai trouvé bizarre, c'est que la page d'avant est géniale sur le rapport au médecin, justement. Si tu veux lire un ou deux
petits post-it. Oui, c'est des astuces pour une consultation réussie chez le médecin. Faites confiance à votre ressenti. En cas de malaise, s'autorisez à quitter la pièce. Ne retournez pas chez le médecin. En cas de gêne, ne pas hésiter à formuler vos craintes. Vous avez le droit de refuser un examen. Vous avez aussi le droit de demander un examen. Le frottis, par exemple. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a pas mal de gynécos qui ont tendance à dire bah, « Vous êtes lesbienne, vous n'en avez pas besoin. » On en a déjà parlé, hein, les présupposés que selon nos pratiques... Enfin, des pratiques supposées des lesbiennes, on n'aurait pas
ou
besoin.
Ou les non-pratiques supposées des lesbiennes,
l'occurrence, plutôt. Donc, les lesbiennes peuvent pratiquer la pénétration vaginale. Je vous laisse faire cours à votre imagination. Laissez cours à votre imagination. Bon, voilà, cette brochure, je la trouve sympa et je trouve que voilà, on voit aussi tous les efforts et tout qu'elles ont vraiment essayé de penser à beaucoup de choses en termes de diversité de pratiques justement et d'existence
et de relations.
Et de relations, vraiment, voilà.
Après, je sais pas si elle est tirée à beaucoup d'exemplaires. On peut la trouver sur internet du coup, mais c'est vrai qu'en papier, c'est quand même pratique aussi, je sais pas où on la trouve. Est-ce qu'elle est dans tous les plannings familiaux?
Elle est aussi. Enfin, le planning familial est référencé dans les assos partenaires, donc j'imagine qu'on peut la trouver au planning, dans les assos LGBT. Je sais que là, elles sont en train de la sortir un peu en grande pompe, de faire aussi la tournée des bars et des clubs lesbiens pour la présenter et tout. Donc voilà, là, elle est sortie en octobre. Hein, donc c'est tout nouveau, quoi. Voilà, voilà.
Bon, bah, n'hésitez pas, si vous l'avez lu, si vous y avez participé ou quand vous l'aurez lu, à nous faire des retours aussi hein, pour savoir vous ce que vous en pensez, comment vous l'avez trouvé, est-ce que vous a parlé, ça vous a parlé, pas. Voilà, on est preneuse de vos retours sur cette brochure ou sur d'autres outils d'ailleurs, hein, si vous en avez d'autres à nous faire découvrir.
Bah, moi, je voudrais quand même dire qu'effectivement, il y a eu d'autres brochures qui ont existé ou qui circulent encore. Ouais. Il y avait cette brochure qui s'appelait Gwix, qui avait été produite notamment en partenariat avec l'association Fris à Lyon, qui est une association des réductions des risques et des dommages en matière de sexualité, voilà, et qui bosse pas mal sur la question de réduction des dommages dans le domaine de la sexualité, qui peut-être existe, se trouve plus facilement en papier, mais qui est trouvable sur Internet. On peut la feuilleter quoi, virtuellement sur Internet. Je pense aussi à un petit livre qui avait été fait dans le Nord par les Flamants Roses qui s'appelle Sappho, qui est un petit livre violet. Alors, pareil, est-ce qu'il y en a encore, mais qui était un petit livre de prévention pour les lesbiennes. Enfin bon, il y a quand même déjà eu des choses de faites, quoi. Donc, je suis très contente que cette brochure sorte et je suis très contente que l'INPES, là, ces instituts nationaux,
mettent des sous
là-dedans. Bien sûr, mais je trouve ça important de ne pas occulter le travail des associations et des militantes, mais qui sont d'ailleurs à l'origine de cette brochure et que c'est elles qui l'ont écrite et c'est pour ça qu'elle est bien. Ça se sent très fort.
Bon, puis de toute façon, en plus, il y a d'outils diversifiés, au mieux c'est. Hein.
Voilà. C'est ça.
Et du coup, c'est la brochure Gwix de sur Sappho, je pense aussi. En fait, c'est des brochures qu'on peut retrouver sur des sites qui vont rassembler différentes brochures. Et je pense notamment à un site qui est suisse. Donc, tout n'est pas en français, mais la plupart des articles et des brochures qu'on peut trouver sont en français. Et c'est un site qui s'appelle Santé Pluriel. Voilà, sans le E. Bon, on vous mettra tout en fait sur le site, ça sera plus simple. Et du coup, c'est un site où il y a à la fois des articles de fond sur les questions politiques de santé sexuelle, d'homophobie, voilà, et à la fois des documents à télécharger, un peu plus pratiques. Notamment, il y a des documents qui sont sur la santé des lesbiennes, mythe ou réalité. Donc, ils prennent un petit peu ils déconstruisent en fait les idées, comme on parlait tout à l'heure de une femme avec une femme, c'est pas vraiment de la sexualité. Nanana. Et du coup, ils démontrent tout ça page par page. Cet article-là qui est fait, je pense, par le site de Santé Pluriel.
D'accord.
Voilà. Donc, ils sont des féministes.
D'accord.
Et elles ont notamment, alors là ça ne nous intéresse pas directement, mais une liste de thérapeutes qui sont, donc de médecins, qui sont bien avec les lesbiennes. Parce qu'effectivement, comme on parlait, ce n'est pas forcément pratique, donc ce n'est pas une liste qui est publique, il faut leur écrire. Mais si ça pouvait donner des envies de faire des listes en France, ça serait intéressant.
Bon, on ne va peut-être pas aller jusqu'en Suisse pour trouver une gynéco...
Mais en tout cas, acceptable. C'est une bonne démarche parce que c'est vrai qu'on est vite noyé et qu'on se prend vite des revers.
Ouais. Bon.
Voilà, et puis un autre site et un collectif qui est plus proche de chez nous, qui est sur Lyon, c'est le collectif Lesbien Lyonnais. Donc, elles ont participé hein, à la brochure Tomber la culotte. Du coup, on peut retrouver cette brochure-là sur leur site, mais aussi d'autres petites fiches techniques. Je pense par exemple à comment découper un préservatif pour en faire une digue dentaire. Enfin voilà, il y a des choses... Des choses assez pratico-pratiques. C'est plus sur la forme de blog. Et puis, il y a un peu toutes les infos de ce qui se passe sur Lyon, sur ces thématiques-là. Donc, c'est assez intéressant aussi. C'est le collectif Lesbien Lyonnais. Et vous trouvez
facilement. Elles sont assez actives. Bah, c'est elles, là, en ce moment, ce soir, qui sont d'ailleurs en train de faire la tournée des clubs pour présenter leur brochure. Bon, on s'écoute un petit morceau de Thunder Forever qui s'appelle My Love. Et puis, on se retrouve après sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope. À tout de suite. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me, what would you do? If I told you you were beautiful, would you date me on the regular? Tell me, would you? Well, maybe I've been around the world. I ain't seen myself another girl like you. This ring here represents my heart. Everything that I've been toujours à l'écoute de Radio Kaléidoscope 97 FM avec l'émission Calibre, émission de libre antenne sur les questions d'amour, de sexualité, de rapport au corps. Vous pouvez nous appeler pour nous poser vos questions ou pour nous livrer vos témoignages ou libre antenne, pour ce que vous voulez, au 04 76 09 09 09. Alors, pour continuer, on vous propose un petit témoignage tiré d'un forum, ce qui pour nous est un peu aussi un moyen de encore toujours lancer un peu des appels à contribution et puis de pas juste que ce soit pas juste nous qui parlions à l'antenne, mais aussi se prêter notre voix à d'autres témoignages et à d'autres personnes. Alors là, on continue un peu sur notre petit thème de l'émission du début, là.
Oui, un petit... pas tout à fait. Bon, on va voir.
On va voir. Okay. Alors, dis-moi.
Donc, c'est une dame qui parle. Ok. Donc, je vais lire son poste, comme on dit. Ayant quelques déboires avec les hommes en ce moment, j'ai décidé que j'avais le droit de me faire plaisir sans eux et donc de me laisser aller à la masturbation. Je ne suis pas d'un naturel extraverti et même si j'ai commencé tard, j'ai envie de profiter de mon corps. Seulement, je ne suis pas experte et je me pose quelques questions. Premièrement, je n'éprouve pas vraiment de plaisir avec une masturbation profonde, vaginale. En tout cas, seule. Par contre, j'éprouve beaucoup de plaisir en stimulant mon clitoris directement ou alentour. Quand je me masturbe, il arrive un moment où j'ai beaucoup de mal à rester en contrôle de mon corps. Je sens le plaisir monter et à un certain moment, je sens comme une vague de chaleur et de plaisir dans la totalité de mon bas-ventre. Ainsi que parfois, si je reste posée sur mon clitoris, je le sens palpiter. Mais je ne peux pas rester longtemps tellement le plaisir est intense et presque douloureux, ce qui me fait déplacer mes caresses. Je sens aussi mon ventre, mon sexe et mes jambes se contracter. J'en arrive donc à la conclusion que je n'arrive pas à me lâcher jusqu'à l'orgasme et j'avoue ne pas savoir ce que c'est. Pourtant, arrivé au moment où le plaisir monte, ça en devient presque insupportable tellement c'est bon. Est-ce cela la jouissance? Est-ce que je devrais stopper? Mais pourquoi j'ai l'impression d'aller contre la jouissance, de me retenir? Devrais-je simplement laisser ce sentiment m'envahir en arrêtant? Je ne saurais expliquer plus.
Bah, je trouve déjà pourtant qu'elle explique pas mal. Parce que, alors, vas-y, pour poser des mots, pour décrire ce que c'est que... Enfin, pour décrire un orgasme ou une jouissance ou...
En tout cas, ce qui se passe dans ces moments-là dans ton corps, quoi.
C'est quand même très compliqué. Donc, moi, et c'est aussi très compliqué, je trouve, en entendant ces mots, de décider à sa place s'il s'agit d'un orgasme ou pas. J'ai envie de dire, oui, bah, ça peut être un orgasme, tout ça. Mais si t'as l'impression que c'en est pas encore un et que c'est ce qui vient avant...
C'est que sans doute, il y a moyen d'aller.
C'est que sans doute, il y a moyen d'avoir plus de plaisir encore. Bon, est-ce que même on considère qu'un orgasme, c'est l'aboutissement du plaisir en soi? En fait, je trouve ça vachement compliqué. Mais c'est intéressant d'essayer de poser des mots sur tout ça. Ouais. Hein. Alors, ce qu'elle ne dit pas, mais ce que moi j'ai pensé quand tu as lu ça, c'est qu'elle n'avait jamais eu de plaisir avant dans sa sexualité avec d'autres personnes. Parce que là, d'un coup, on dirait qu'elle se masturbe et qu'elle découvre le plaisir. Ouais. C'est assez étonnant.
Ouais. Oui, alors enfin, qu'elle dit juste, bon, en ce moment, j'ai quelques déboires avec les hommes. Quoi. Alors qu'on comprend dans son texte que ben, c'est par cette découverte de la masturbation qu'elle est en train de effectivement
découvrir
sentir
le plaisir et tout. Hein. Donc, ouais. Je disais, c'est étonnant, non?
C'est pas si rare que ça.
C'est pas si étonnant. Mais en tout cas, c'est quoi sa question finalement?
C'est. De ce que je comprends, moi, c'est qu'elle a l'impression de ne pas réussir à aller au bout de ce qu'elle ressentirait.
Et elle qu'elle s'arrête parce que
c'est parce
trop
que ça la fait peur. Ouais, je pense que ça l'angoisse un peu, que c'est un truc un peu submergent et que du coup, elle parle de perte de contrôle, de pas réussir à lâcher.
Mais ça ressemble un peu à un orgasme, la perte de contrôle, non?
Oui, mais j'ai l'impression qu'elle fait en sorte que ça n'arrive pas.
Ou qu'elle a l'impression qu'elle fait en sorte que ça n'arrive pas. Oh, c'est compliqué, hein.
Bah, je sais pas, moi ça me parle par exemple. C'est vrai que. Oui, à fond, ce truc de quand tu sens que le plaisir là est en train de monter, à un moment c'est tellement trop que tu fais comme un pas en arrière, tu vois. Tu fais un.
Ah, ouais. Oui, je vois. Oui, c'est vrai que ça arrive. Enfin, ça peut arriver en tout cas. Mais... Bah, non, mais je trouve ça trop compliqué, moi, ces mots. C'est marrant, d'un coup, là, tu vois, je sais plus quoi dire. Je dis, bah oui, bah continue. En tout cas, tu as l'air de prendre du plaisir, alors profite. On s'en fout. Non ?
Non, sa question, c'est est-ce qu'il faut. J'ai l'impression, une des sous-questions, on va dire, c'est. Donc, elle se caresse, notamment le clitoris, et à un moment, elle se demande s'il ne faut pas qu'elle arrête un peu plus tôt de se toucher, ou en tout cas de faire des mouvements pour laisser le flux de jouissance traverser son corps, tu vois, j'ai l'impression. Mais bon, après, ça dépend tellement d'une personne à l'autre, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a autant de façons de se masturber que de personnes. Alors, moi, je ne saurais pas quoi lui dire. Mais en tout cas, si, parce qu'elle, sur ce truc de stimulation vaginale ou de stimulation, de stimulation par l'intérieur du vagin ou de stimulation par le clitoris, qu'elle ne se formalise pas de préférer la stimulation clitoridienne, en cela, elle est plutôt commune.
Pardon.
Ouais. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes,
ouais,
de préférer la stimulation par le clitoris que la stimulation par l'intérieur du vagin. L'inverse étant aussi...
Totalement, très bien pour
enfin, il n'y a pas de problème ni de normalité là-dedans, mais en tout cas, les témoignages disent que la plupart des femmes préfèrent la stimulation par le clitoris directement pour se donner du plaisir toute seule.
Ouais.
Ou même si elles passent par une phase aussi de stimulation interne, par le vagin, c'est quand même la stimulation du clitoris qui va les amener à l'orgasme. Ouais. Donc pour ça, qu'elle ne se sente pas trop seule, elle ne l'est pas. Après, bon, bah, j'ai l'impression est-ce que si ce serait pas bien de se dire que c'est aussi vachement intéressant tout ce processus de découverte et de tentative et qu'elle essaye différentes choses, qu'elle passe par des moments où elle essaye justement d'aller plus loin, de s'arrêter. Qu'est-ce que ça fait si elle arrête de se toucher ? Est-ce qu'elle se laisse submerger, comme elle dit, par ses sensations ? Si au contraire, elle continue, est-ce qu'elle découvre des sensations encore plus fortes ? Ouais, je trouve que ça, c'est un jeu avec soi-même et que du coup, ça peut valoir le coup d'être patiente aussi avec soi-même et de se dire qu'on découvrira les choses petit à petit et...
Oui.
Et se foutre trop la pression. Hein.
Ouais. Et notamment, peut-être, de ne pas se dire ah, bah, c'est parce qu'en ce moment, ma sexualité avec d'autres, ça ne va pas trop. Du coup, je me rabats sur la masturbation. Non, c'est vraiment une part de la sexualité aussi qu'on peut explorer indépendamment des relations avec d'autres ou pas. Quoi. Voilà un petit peu. Ah oui, et puis il y avait une autre sous-question qui est. Alors, je n'ai plus la phrase exacte. Ah si, voilà. C'est cela vous arrive-t-il de vous masturber pendant vos règles ? Et si oui, comment faites-vous ?
Ah, mais c'était ça le lien avec...
Oui, c'était ça, le lien avec le début, ça y est.
Alors, moi, je trouve ça très drôle, le comment faites-vous ? J'ai envie de dire, bah, tu te laves les mains. Je sais pas, moi, tu te laves les mains avant, tu te laves les mains après. Enfin, avant, comme tu veux, d'ailleurs.
Non, après, c'est vrai qu'on a un rapport différent, notre propre sens des règles. Et puis, peut-être que, pour certaines, c'est pas très glamour de se masturber en ayant ses règles. Mais il y a des petites astuces, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, effectivement, de se masturber l'intérieur du vagin. On peut mettre un tampon, une éponge ou quoi que ce soit et stimuler son clitoris, par exemple. Ça, le fait d'avoir des règles.
Le faire sous la douche.
Le faire sous la douche aussi.
Si on n'a pas envie d'être en contact avec le sang, a priori, quand on prend une douche, ça s'arrête de couler. En tout cas, c'est plus propre. Bah oui, mettre des gants si on veut vraiment pas être en contact avec son propre sang. Mais c'est vrai que ça m'a paru naïf comme question.
Oui. Comment faites-vous ? Bah pareil.
Pareil que d'habitude.
Non, après, j'imagine que c'est ça. C'est parce qu'il y a un espèce. En tout cas, pour elle, c'est compliqué peut-être de toucher son sang et que.
Mais d'ailleurs, ça me fait. Non, mais j'ai qu'à pas te poser la question à toi directement. T'as peut-être pas envie de répondre. Mais enfin, vous vous lavez les mains à chaque fois que vous vous masturbez ? Avant, je veux dire.
Avant ?
Ou après, d'ailleurs ? Non, bah, faut-elle en régie.
Je dirais que la réponse politiquement correcte, c'est faudrait, ouais.
Oui, ça va bien. Mais non, mais c'est marrant, en fait. On se pose toujours des tonnes de questions d'hygiène. Bon, bref. Voilà, bah, encore
mais des c'est questions. C'est-à-dire, non. Enfin, moi, si je suis genre dans mon lit, j'ai une forte envie de me masturber, je vais pas me dire « Attends, je vais aller me laver les mains à la salle de bain, est-ce que c'est libre ?» Bon. Mais en vrai... En vrai, je pense que ça serait pas mal.
Bah, de fait, t'as pas plus d'infection que ça.
Non, alors mais bon, c'est pas non plus une pratique quotidienne que j'ai. Non, mais si, parce que les mains, ça touche quand même un peu tout. C'est vrai que...
Oui, mais pour moi, c'est la preuve qu'on est résistante.
Tout à fait, peut-être c'est une accoutumance.
Bon, ok, c'est un débat fumeux ce soir.
Oui, on n'est pas en supra mégaphone, mais c'est
alors, bien. Eh ben, en tout cas, non, mais si, c'est intéressant. Donc, je pense qu'on peut tout à fait se masturber quand on a nos règles. On peut aussi avoir des rapports sexuels quand on a nos règles. Mmh. Ça dépend de nos partenaires. Si elles ou ils sont gênés par la présence de sang ou pas, mais en tout cas, il n'y a aucune contre-indication médicale, physiologique ou quoi que ce soit.
Bon, avec le truc que les règles, c'est du sang et que ça peut être un passage plus important pour des transmissions d'infections sexuellement transmissibles. Tu veux dire en termes de prévention ? Mais, oui. mais c'est en termes de réduction des risques. Enfin, ça n'a rien à voir avec les pratiques sexuelles en elles-mêmes, quoi.
Tout à fait.
Voilà. Et il y a d'ailleurs une autre petite astuce, c'est pour éviter de tâcher le matelas, pour éviter d'avoir à changer les draps à chaque fois qu'on fait l'amour en ayant nos règles. Simplement mettre une serviette, en fait. Bon, c'est pas hyper glamour, mais on peut le recouvrir d'une petite autre chose, une toile ou je sais pas quoi. Comme ça, on n'est pas obligé de toucher une toile serrée.
Tellement enfin, glamour.
Remarque, avec un peu de mousse là qui glisse, ça peut être... Bon, bref.
Alors, vous pouvez faire l'amour sur la table de votre cuisine, sur une toile cirée, comme ça au moins, pas de problème.
Bon, je proposerais qu'on enchaîne sur une petite musique avant d'aller plus loin dans n'importe quoi.
Dans le gore. Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup, une chanson de Dalida qui s'appelle « Il venait d'avoir 18 ans ». Et je la dédicace à toutes celles qui aiment les bambinos. Allez.
Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été. Et j'ai compté en le voyant mes nuits d'automne. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi. D'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma. D'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. C'était pas si mal avec la candeur infernale de sa jeunesse. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans.
Dalida, il venait d'avoir 18 ans et ben, ça nous permet de vous relancer une petite perche hein, si vous voulez témoigner de vos relations passées, présentes ou fantasmées avec des personnes bien plus jeunes ou bien plus vieilles que vous, et ben ça nous intéresse aussi en termes de témoignages, de qu'est-ce que ça vous fait. Voilà, pas pour dire que c'est des relations bizarres ou spéciales ou je sais pas quoi, mais pour avoir des récits de types de relations différentes, quoi.
Oui, parce que là, Dalida, il faut quand même noter qu'elle a tout le long, on a l'impression qu'elle est hyper plus vieille que lui. Elle a 35 ans, elle a deux fois 18 ans. Donc moi, ça ne me choque pas spécialement, une femme de 35 ans avec un mec de 18. Bref, mais bon, en tout cas, voilà, c'était une petite spéciale dédicace à celles qui aiment bien les bambinos. Et puis, si elles ont envie de nous appeler pour nous le raconter, et ben, c'est cool. Mais on va complètement changer de sujet.
Ah oui.
Toi, tu voulais un sujet un peu plus sérieux, effectivement, un peu moins funky que toutes ces histoires de toiles cirées. C'est le Gardasil.
Ouais, alors, c'est quoi le Gardasil ? C'est un vaccin qui est sorti il y a quelques années qui est censé protéger du cancer du col de l'utérus.
Ah, il y a eu beaucoup de pubs.
Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de pubs.
Beaucoup, partout.
Et d'ailleurs, bizarrement, j'ai vu de la pub uniquement pour celui-là, alors qu'il y a deux vaccins qui sont sortis pratiquement en même temps. Mais je pense que le Gardasil avait beaucoup plus de sous derrière lui pour faire sa pub. Alors, comment ce vaccin est censé marcher ? Donc déjà, c'est un vaccin qui est recommandé par les autorités sanitaires, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et que les jeunes filles sont censées faire avant leur premier rapport sexuel. Et comment il marche pour éviter, d'après ce qu'il raconte, le cancer du col de l'utérus, il va en fait s'attaquer à certains papillomavirus qui sont déclencheurs d'une partie des cancers du col de l'utérus.
Alors, juste pour faire un petit récapitulatif un peu simple, cancer de col de l'utérus est dû à certaines formes de papillomavirus. Potentiellement.
Pas que. Une grosse partie des cancers de l'utérus sont dus à
du
col de l'utérus sont dus à certaines souches de papillomavirus.
Papillomavirus, c'est la même chose que HPV.
Ouais.
C'est pour s'y retrouver un petit peu parce que sinon c'est quand même pas simple.
Voilà. Donc ce vaccin, qu'est-ce qu'il fait ? Il détruit totalement deux souches de papillomavirus qui sont responsables d'une grande partie de ces cancers du col de l'utérus.
Il y a combien de souches ?
Il y en a une centaine.
Waouh !
Donc okay. Voilà, c'est deux. En vrai, le Gardasil, c'est 4 sur 100. Bon, il y a les deux principales qui causent les cancers, donc c'est pas mal. Mais ce qui s'est passé, en fait, ce qui se passe avec les études et pourquoi ce vaccin il commence à être mis en cause, parce que s'il détruit ces souches de papillomavirus, en fait, pour l'instant, dans les études, il n'y a pas de diminution du cancer du col de l'utérus. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Une hypothèse, c'est parce que en fait, d'autres souches de papillomavirus qui peuvent dégénérer en cancer prendraient la place de ces souches détruites. Voilà. En tout cas, c'est pas l'efficacité de ce vaccin, pour l'instant, n'est pas prouvée scientifiquement, malgré toute la communication qu'on voit.
En même temps, il n'y a pas beaucoup de recul pour l'instant, parce que si c'est les femmes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel avec des hommes, j'imagine d'ailleurs, ça concerne que les hétéros ou quoi, cette question ?
Non, a priori non. C'est...
Bon, ok. Donc les femmes qui n'ont pas eu de rapport sexuel, qui doivent faire ce vaccin-là, on n'a pas beaucoup de recul quand même.
Alors,
on peut supposer que c'est plutôt des femmes jeunes.
Voilà, ça a démarré il y a plus d'années aux États-Unis, donc on pourrait commencer à avoir le recul, et c'est pour ça qu'on a les premières études qui sortent, en fait.
D'accord.
Où la diminution du nombre de cancers n'est pas très claire. Et effectivement, les boîtes de communication des vaccins nous disent « Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas encore le recul, vous allez voir, plus tard, ça va diminuer. » Peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce vaccin, il a des effets secondaires. Bon, encore une fois, les effets secondaires, tout le monde ne les développe pas. Et puis, ça peut être un petit peu de fièvre, un petit peu de mal au ventre. Mais il y a des soupçons d'effets secondaires assez forts. Et je dis soupçons parce que pour l'instant, juridiquement, ça n'a pas été prouvé le lien entre le vaccin et ce qui s'est développé chez des femmes, bien que la temporalité montrait avoir qu'il y a une relation de cause à effet, avec vraiment des grosses fièvres, voire des problèmes dans le cerveau, enfin vraiment des gros trucs.
Ah oui, des trucs graves.
Ouais, des trucs graves. Et les chiffres qu'on a et qui sont donnés par l'Agence française sanitaire, donc un organisme on ne peut plus officiel, en gros, on a plus de chances de développer les effets secondaires du vaccin que de contracter un cancer du col de l'utérus en n'étant pas vaccinée. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas.
Et comment tu le sais, toi, alors ?
Bah, c'est les chiffres. Parce qu'en fait, il y avait un article, voilà. Peut-être que je ne suis pas partie du début. Il y avait un article dans Le Point, il y a 2 semaines, qui questionnait un petit peu cette question du vaccin. Notamment en disant, ok, pourquoi pas se faire vacciner, mais il faut qu'on sache qu'on ne sait pas s'il est utile ou pas. Et surtout, en fait, pourquoi mettre autant de sous dans ce vaccin-là ? C'est-à-dire que, alors, les chiffres, je crois qu'il y a eu 78 millions de doses vendues dans le monde, dont plus de 4,5 en France. C'est-à-dire qu'en France, en rapport de nombre de personnes, c'est vraiment un des pays vraiment qui a vraiment fait un une grosse communication sur le vaccin, et avec un remboursement des doses donc pour les filles qui sont assez jeunes et qui n'ont pas démarré leur activité sexuelle. Mais on ne décourage pas forcément celles d'après de faire le vaccin de leur propre poche, alors que ça ne sert à rien. Et du coup, il y a je ne sais plus combien de millions d'euros, 45 millions d'euros, je crois, dépensés par la France pour cette vaccination. Et en fait, c'est un peu ça qui est interrogé. Si on n'est pas sûr qu'elle soit utile, pourquoi ne pas avoir mis ses sous dans d'autres choses qui sont plus utiles ?
Par exemple, j'imagine que le frottis est une méthode de prévention du cancer du col de l'utérus qui est assez efficace.
Voilà,
donc on conseille quoi, un frottis par an ?
Non, c'est beaucoup moins que ça en fait. Ouais, c'est
moi qui culpabilisais.
non, pas de souci. Alors oui, en fait c'est ça, c'est que le dépistage du cancer du col de l'utérus, il ne peut se faire que par frottis. Et c'est pas parce qu'on a été vacciné, même juste quand il fallait, avant ses premiers rapports sexuels, tout ça, qu'on a été vacciné, qu'on ne peut pas développer un cancer du col de l'utérus. Ce qui veut dire que, dans tous les cas, le dépistage par frottis, il faut le faire.
Même si on a été vacciné.
On a été vacciné ou pas. Et c'est un peu le problème du
vaccin. Et tu connais combien de temps, alors ?
Alors, le premier...
J'ouvre tomber la culotte que j'ai devant moi, dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils nous disent ?
Alors, Martin Vinclair, qui est un médecin dont vous a...
Tous les 3 ans.
Ouais, c'est ça. Donc, vous a déjà parlé. Lui aussi, il dit, c'est tous les 3 ans. Ça ne sert à rien de le faire plus souvent. Parce que, en fait, ce qu'on va regarder dans le frottis, c'est comment des cellules évoluent. Et entre la contraction du papillomavirus et l'évolution, il y a des années, au moins 5 ans qui se passent. Donc, ça ne sert à rien de faire un frottis tous les ans. Vraiment, même si on voulait... En tout cas, pour la détection du cancer du col de l'utérus, tous les 3 ans, c'est amplement suffisant.
Mais alors, pourquoi il y a marqué entre 25 et 65 ans ? Avant 25 ans et après 65 ans, c'est pas la peine de se faire des frottis.
C'est ça. En fait, c'est pas la peine de faire un frottis à... pour détecter le cancer du col de l'utérus, après peut-être pour d'autres choses, mais je crois que ça sert qu'à ça le frottis. Hein. C'est pas un prélèvement vaginal, c'est un truc spécifique qui va décoller des petites cellules, du coup c'est que pour ça. Oui, c'est avant, à 25 ans ou 8 ans après le premier rapport sexuel. Parce que
c'est pour ça qu'ils disent 25 ans, ils présupposent qu'on a le premier rapport sexuel à 18 ans.
Ouais.
Oui, mais c'est pas, je veux dire, il y a des personnes, elles ont leur premier rapport sexuel à 12 ans.
Ouais.
Alors elle devrait le faire à 20 ans.
Alors il y a aussi un truc, bon déjà c'est parce qu'il y a donc plusieurs années, comme j'ai dit, entre la contraction du virus et ce virus, le papillomavirus, en fait, Martin Vinclair, il dit, mais tout le monde, tous les hommes et toutes les femmes contractent ce virus au début de leur sexualité et la majorité ne développe rien avec. Mais ce qui est embêtant, c'est quand ça part mal, eh ben, effectivement, il faut traiter. C'est pour ça qu'il y a toute cette attention-là. Mais a priori, c'est un virus que l'organisme, dans la plupart des cas, gère tout seul. Et c'est quoi la question ? Oui, 25 ans. Oui, parce que aussi, il peut y avoir des anomalies de cellules repérées au frottis avant 25 ans et qui sont en fait une histoire de constitution physique, c'est-à-dire que le développement de ces cellules-là est en cours et du coup, ça peut apparaître une anomalie. On refait un frottis un an après, il n'y a plus rien. En fait, c'était un développement, on va dire, normal du col de l'utérus.
Et après 65 ans ?
Après 65 ans, je sais pas, j'espère que c'est pas parce qu'on présuppose qu'il n'y a plus d'activité sexuelle. Je pense pas, je pense qu'il y a des... Je sais pas, j'ai pas lu.
Bon, voilà, une question. Mais un peu en cours alors. Mais ouais, le site de Martin Vinclair, en tout cas, vraiment, on peut le conseiller une fois de plus. Alors bon, je le trouve pas très pratique, en réalité. Mais par contre, au niveau du contenu, il est vachement bien. Et ce qu'il écrit, ce monsieur-là, c'est quand même vachement bien. Et notamment très très clair. Alors moi j'ai lu encore aujourd'hui une explication du fonctionnement de la pilule. Figurez-vous qu'on ne me l'avait jamais expliqué aussi clairement. Donc bah, c'est pour dire, je trouve qu'il parle de façon ouais. très très claire et qu'il explique qu'il est vraiment dans une optique de vulgarisation et d'expliquer pourquoi, du comment, des choses liées à ces histoires de gynécologie. Et je trouve ça assez, assez bien.
Ouais.
Donc je le conseille vraiment. Il est quand même très hétéronormé, évidemment, mais bon, il s'occupe surtout de l'histoire de contraception, donc voilà. Mais en tout cas, c'est quand même très, très clair et très compréhensible pour tout un chacun qui n'est pas médecin.
Ouais.
Et donc, il est vraiment dans une optique de que toutes les femmes puissent comprendre les enjeux de leur choix en matière de gynécologie.
C'est ça, c'est qu'il ne va pas dire « faut pas se faire vacciner » ou « faut se faire vacciner ». Il va donner les infos, il va dire « bon, à partir de là, vous faites votre choix, mais ne vous laissez pas traiter de monstre si vous décidez de ne pas faire vacciner votre fille contre le HPV, par exemple ».
Ouais, mais d'ailleurs, ça, c'était une des réserves qu'on m'avait dit quand il a été lancé, ce vaccin. Je me souviens d'une discussion avec une amie médecin qui me disait « mais... j'ai l'impression qu'on va voir des mamans emmener leurs filles soi-disant vierges pour se faire vacciner pour rien, parce que leur fille, de toute façon, n'osera pas dire à leur mère, pour leurs raisons qui leur appartiennent, que c'est pas vrai, elles ont déjà eu des rapports sexuels. Ouais. Du coup, elles vont se faire vacciner pour rien. Donc, bon, ça, c'est...
Voilà. Et lui, il dit, bah, vaut mieux, si vous voulez faire quelque chose pour votre fille, et bah, vaut mieux parler avec elle de réduction des risques de dépistage et de comment se protéger. Mais...
même si c'est peut-être pas facile de parler à sa fille. Mais enfin bon, ça c'est une autre question. Allez, une autre pause musicale ? Ou tu voulais encore ajouter un truc ?
Non,
sur,
non, moi c'est bon, ce jeu, on a le temps de se refaire une petite musique avant.
Ah ouais, puis t'avais envie de l'écouter. Allez, présente-la.
Bon, alors peut-être qu'on coupera au milieu parce qu'elle se répète. Bon, on verra. On verra. Donc c'est mon petit coup de cœur pour la musique cette belle musique des années 90. Non, c'est pas vrai, elle est pas belle, mais comme c'est ce que j'écoutais à la radio quand j'étais ado, ça me parle.
Mais si, c'est très bien, c'est super, pas de complexe.
Et du coup, là, c'est Blur, Girls and Boys.
Mais elle est trop bien, cette chanson.
Thank you.
Et c'est la fin de notre émission Calibre sur Radio Kaléidoscope. On écoutait ce morceau de Blur, Girls and Boys, et je comprends pas bien ce qu'il dit, moi, dans le refrain. Il dit « Girls to be boys, to go girls ».
Ça a l'air d'être...
Ça est très loin. Bon,
ouais. Ouais, je sais pas, faudra voir, se renseigner, c'est vrai. On passe de la musique, on sait même pas ce qu'il dit. Ça craint. Mais c'est l'avantage de l'anglais. Hein.
C'est qu'on peut apprécier des musiques sans être choqué si ça dit trop de conneries. On voulait finir avec un petit agenda.
Mm-hmm.
Alors, plusieurs petits événements bon, qui s'adressent plutôt à nos auditeurs et auditrices grenobloises. Hein, mais pas que. D'ailleurs, pas que ce soir. Mmh. Alors, le premier événement dans l'ordre, bah, c'est samedi 5 novembre, là, dans deux jours. Samedi soir, il y a une fête organisée par l'association lesbienne des Voix d'Elle. Donc, c'est une fête non mixte, femmes et lesbiennes. Voilà, donc cette fête est à la salle rouge qui est
rue
Ampère. Il y a les usines, c'est moi, mais c'est indiqué. Hein, voilà, je saurais pas dire précisément le numéro.
Oui, bah c'est
mais...
derrière. Je pense que c'est au 10 bis ou 12 bis ou un truc comme ça.
Voilà.
En tout cas, c'est derrière le Porsche où il y a marqué c'est moi. Là, faut prendre vers les nouveaux. Toutes les nouvelles halles qu'ils ont refaites, enfin bon, vous trouverez.
Bon, c'est une salle rouge et
mais ça se trouve. Elle est indiquée, hein, y a un panneau.
Oui, puis les Voix d'Elle, elles vont mettre sûrement un petit fléchage aussi. Donc voilà, une fête lesbienne samedi soir, fête associative. Hein. Donc je pense que c'est sympa en général leur fête. Et puis un petit événement aussi à Grenoble lundi, la bibliothèque féministe déménage.
Ouh,
quel événement! Et on le fête, hein, c'est surtout ça l'événement, c'est qu'on en profite pour faire la fête. Toutes les excuses sont bonnes. Alors voilà, pour celles qui ont envie de filer un coup de main, c'est possible de se rendre... Il y a un rendez-vous à 13h30 au petit vélo dans la tête, avec son vélo, ou pas, parce qu'il y a des vélos à emprunter d'ailleurs, pour faire une petite balade en vélo dans la ville. On va chercher les cartons, enfin, on met des carrioles, on va chercher les cartons de la bibliothèque et on les emmène en vélo. Bon, ça c'est pour
un petit défilé vélo, carriole et bouquins au milieu de Grenoble, ça va être sympa.
Voilà, bon, et puis en tout cas, bon, ça c'est pour celles qui sont vraiment motivées. Sinon, c'est possible juste de venir fêter ça avec nous lundi soir, donc à partir de 19h. C'est possible d'amener un truc à manger, il y aura un bar et il y aura de la musique. Et c'est l'idée de fêter l'installation de la nouvelle bibliothèque féministe.
Et elle s'installe où d'ailleurs?
C'est ça l'information importante. Elle s'installe dans un nouveau local qui est une sorte de centre social autogéré. Hein, donc de local collectif où tout le monde peut s'investir et y faire des choses. Donc il y a surtout des concerts, il y a un infoshop et il va y avoir cette bibliothèque. Et puis d'autres activités, enfin, je vous conseille
oui,
d'aller voir.
Plein d'activités prévues.
Voilà, plein de projets. Et c'est deux chemins des Alpins à Grenoble. Et c'est le chemin des Alpins, c'est la toute petite route qui est juste après le croisement Stalingrad-Alliés. Voilà, la rue des Alliés, la rue Stalingrad, ça fait un croisement là. Et juste après, il y a le petit chemin des Alpins. C'est au numéro 2. Et la bibliothèque féministe, ce sera tous les lundis de 16h à 20h.
D'accord. L'inauguration et le déménagement, il est en mixité.
En non-mixité.
Meuf trans et Gwyn, c'est ça?
C'est ça, oui. On peut le dire comme ça.
Ainsi donc... que les permanences, à part le premier lundi de chaque mois, qui est ouverte
à tout le monde, je crois.
Tout le monde.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'était le deuxième événement pour lequel on voulait faire de la pub. Et avant de rendre l'antenne, un dernier événement qui est important, à mon sens.
C'est pas tout de suite, mais c'est important de le noter sur vos agendas.
Voilà, le 26 novembre, à Lyon. Alors là, voilà, on s'adresse à tout Rhône-Alpes.
Et plus
si vous avez envie, mais en tout cas, 26 novembre à Lyon, une marche de nuit non mixte, donc à Lyon, rendez-vous à 19h, place du Pont, la place du Pont c'est la Guillotière, pour donc une manif de nuit. On n'a pas le temps là d'expliquer un peu le pourquoi du comment des manifs de nuit, mais historiquement c'est important dans les luttes féministes. Mmh. Et vraiment, là, c'est une marche de nuit unitaire, donc avec plein d'assos et de groupes et de féministes de plusieurs horizons différents. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je pense que ça va valoir le coup et ça vaut le coup d'être nombreuses à cette manif.
Moi, je dirais juste une petite phrase quand même sur le sens, même si on ne développe pas, que c'est important que nous, meufs, Gwyn, trans, on puisse aussi se réapproprier l'espace public et notamment la nuit, où quand même c'est galère. Hein, ce n'est pas un espace qui est fait pour nous et on nous fait bien comprendre. Et ben là, on y va en force et on dit « Merde, nous aussi, on est chez nous ici. »
La nuit nous appartient. Ok, sur ces beaux mots, on vous rend l'antenne et on se retrouve la semaine prochaine à 20h pour Calibre sur Radio Kaléidoscope.
Bonne semaine.
Salut.
Corps,
amour,
sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.